18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Salut à toutes, salut à tous, vous êtes bien branchés sur le 101.2 Radio U et vous écoutez la quotidienne d'information, c'est vous qui le dites. Aujourd'hui, Radio U vous emmènera grâce à la magie du téléphone à Ouessant pour parler du festival Lilophone. Ça, ce sera avec Pauline Bourda en deuxième partie d'émission. Mais pour l'heure, nous allons du côté de Carhaix pour parler d'un sujet beaucoup moins joyeux. Et pour ça, je suis en ligne avec Caroline Trommer, qui est secrétaire du syndicat CGT CHRU Carhaix Brest. Hier avait lieu une manifestation pour défendre le maintien des urgences de l'hôpital de Carhaix. Elle a réuni environ 2000 personnes, dont évidemment des syndicats, des politiques, mais aussi des pompiers qui se sont joints à vous. Avant de parler de cette manifestation et de celle qui sera à suivre ce jeudi, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte ?
Alors, donc cette manifestation a été organisée par le comité de défense de l'hôpital parce que nous avons su en fin de semaine dernière que, contrairement à ce qui nous avait été annoncé le 10 août lors de la venue de la directrice de l'ARS et de la directrice générale du CHU, les urgences ne réouvrent pas complètement à compter d'hier. En fait, les urgences vont être continuent à être, au niveau de la direction, on parle d'une régulation et nous, on parle plutôt d'une fermeture, puisque dans les faits, c'est ce que vit la population. Donc les urgences sont fermées le soir de 18h30 à 8h30 le lendemain matin.
Oui, donc c'est effectivement une vraie fermeture partielle, on peut dire. C'est pas une fermeture complète et définitive. Ouais. Ça a déjà eu lieu cet été. Justement, vous parliez de la population. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux ?
Alors, donc cet été, les urgences, par contre, ont été fermées en totalité. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'accueil direct des usagers qui se présentaient aux urgences. Il y avait seulement une ligne de garde médicale, donc seulement le SMUR qui fonctionnait. Et pour toute autre demande concernant un passage aux urgences, il était demandé à la population de faire le 15 au préalable avant de se présenter.
Et donc, de ce que j'ai compris, ça a aussi engendré, par exemple, pour les pompiers, beaucoup plus de trajets, de déplacements. Ça veut dire que la population doit aller beaucoup plus loin pour être soignée.
Oui, c'est ça. En fait, les pompiers qui sont des pompiers volontaires sur Carhaix et même sur les alentours, parce qu'il y a d'autres communes, se retrouvent à devoir emmener les gens à Quimper, à Morlaix, éventuellement à Brest, quand ça le nécessite. Donc, ça fait des temps pour eux, des temps d'intervention qui sont beaucoup plus longs. Et pendant que les pompiers sont partis pour faire un transfert d'un patient, eh ben ici, au niveau pompier, le bassin de Carhaix est démuni. Ouais. Donc ils disaient hier par exemple que s'ils sont partis faire un transfert assez loin, s'il y a un déclenchement de feu, eh ben il manque de bras sur Carhaix du coup.
Et au niveau des soignants, comment vous vivez la situation ?
Alors au niveau des soignants, c'est ça que vous me dites ?
Oui, exactement. Oui.
Alors au niveau des soignants, disons que ça a mis pas mal de services en difficulté, puisqu'on a eu non seulement on avait cette régulation des urgences pendant l'été, mais on a eu également un regroupement de deux services, la cardiologie et la chirurgie, donc qui avait moins de lits que d'ordinaire. On a un service de médecine polyvalente qui est passé à 16 lits pendant l'été pour cause de congés de personnel médical, mais qui reste également à 16 lits. Là, on l'a appris aussi en fin de semaine. On a également le service de médecine gériatrique qui qui a un dispositif qui s'appelle Allogériat, qui permet de prendre en charge les personnes âgées directement sans les faire passer par les urgences, qui par contre a fonctionné, de façon très importante cet été, ce qui a engendré pour le personnel énormément de travail, c'est-à-dire en changement de chambre, et il pouvait y avoir des journées avec plus de 5 entrées ou de sorties. Enfin, ça a engendré énormément de travail pour le personnel de ce service-là. Il faut savoir que sur l'hôpital, actuellement, on a quand même 60 lits en moins.
Mais c'est énorme.
C'est énorme, oui. C'est 34% de notre globalité en lice. Donc, et on s'inquiète parce que c'est les deux services dont j'ai parlé tout à l'heure là qui avaient fusionné pendant l'été, la chirurgie et la cardiologie. Pour le moment, on n'a pas d'annonce officielle de la direction nous annonçant une réouverture totale de ces services ou pas.
Et justement, comment la direction, j'ai envie de dire, justifie ces décisions ?
Alors au niveau de la direction, je dirais qu'on a, par exemple, pour la non-réouverture totale des urgences, il a fallu qu'au niveau syndical, avec nos collègues de la CFDT, on aille à la pêche aux infos. Parce que les organisations syndicales n'avaient pas été prévenues et cependant les bruits couraient au sein de l'hôpital. Donc il a fallu qu'on aille vérifier l'info au niveau de la direction du site. Lors de la venue de l'ARS le 10 août dernier, les syndicats n'avaient pas été mis au courant.
Donc finalement c'est l'opacité la plus totale ?
Oui, on a le sentiment que oui, c'est assez opaque et puis on a du mal à, en fait, parce que tout ça, tous ces problématiques, on les voit venir nous depuis un moment et qu'on a beau alerter sur certains sujets, en fait, on n'a jamais de réponse. Ce qu'on nous dit tout le temps au niveau de la direction, c'est qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour recruter, que ce soit des médecins ou du personnel non médical, puisqu'on manque cruellement d'infirmières sur le site de Carhaix. Et tout ce qu'on nous répond, c'est qu'on essaye de recruter, mais qu'on n'y arrive pas.
Et vous, au niveau syndical, qu'est-ce que vous en pensez que finalement les efforts ne sont pas suffisamment faits pour le recrutement ? Enfin, quelle est la solution ?
Nous, on a le sentiment qu'on se demande si c'est pas si tout ça n'est pas une politique mise en place pour assécher un peu le site carhaisien et puis faire mourir, je dirais, entre guillemets, tout ce qu'on avait en activité. Nous, quand on a fusionné avec Brest, le but pour les syndicats, le but de la fusion, c'était quand même de garantir le maintien de toutes les activités sur le site de Carhaix, de ne rien perdre, que ça va de la maternité à la chirurgie, au bloc, aux urgences. Enfin, nous, c'était ça l'enjeu de la fusion. Et on se rend compte que même si il y a eu des avancées sur certains points grâce à la fusion, par exemple, on a eu le développement de consultations externes, on a eu l'IRM, mais pour autant, on a le sentiment que Carhaix passe quand même après le site de Brest, en tout cas en ce qui concerne les effectifs médicaux.
Vous avez un soutien quand même des politiques locaux, je pense au maire de Carhaix, Christian Troidec, à la députée Mélanie Thomin. Qu'est-ce que vous attendez justement du soutien de ces politiques ? Peut-être que ça aille taper un peu plus haut au niveau régional, national ?
Oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'on apprécie d'avoir ce soutien. Là, de toute façon, je dirais qu'on est reparti un petit peu comme en 2008. Hein. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Ça va du comité de défense aux politiques, aux organisations syndicales, à la population, au personnel de l'hôpital. C'est vraiment là un combat qu'il faut qu'on mène tous ensemble. Hier, on a été quand même très, très... je vais dire surpris, mais en même temps vraiment ravi de voir la mobilisation quand même de 2000 à 3000 personnes en fin de journée comme ça, et puis une mobilisation mise en place vraiment tardivement. Ben, on se rend compte que la population, les politiques, tout le monde est partie prenante pour le maintien de l'hôpital sur Carhaix.
Justement, on parle de la population. Qu'est-ce que là, les auditeurs, les auditrices peuvent faire pour vous soutenir ? Déjà peut-être venir jeudi à la manifestation ?
Oui, tout à fait. Oui, absolument. Oui, c'est vrai qu'on jeudi, ça va être un premier moment d'action. On a vu lors de notre manifestation en mars, il y avait quand même 16 000 personnes. On sait que la population du pays COB va se mobiliser pour son hôpital. On est tous des usagers potentiels et il faut absolument qu'on maintienne une activité pérenne sur le site, parce que on sait parfaitement qu'il y a une pénurie de médecins traitants. On sait que Carhaix reste isolé par rapport à Quimper, par rapport à Brest, par rapport à Lorient, par rapport à Morlaix. Tout le monde ne peut pas faire une heure de route pour aller se faire soigner.
Oui, et puis on le redit, quand on ne peut pas faire son heure de route tout seul ou toute seule, ça implique que des ambulances, des pompiers viennent le faire, et ce qui démobilise finalement sur le terrain mécaniquement, parce qu'il y a moins de monde.
Oui, tout à fait. C'est en fait au niveau des pompiers, ils l'ont très bien dit hier. Leurs temps d'intervention sont beaucoup plus longs, la fatigue s'accumule. C'est des pompiers volontaires, c'est-à-dire qu'eux, ils ont également leur travail à gérer ensuite et leur famille. Ça impacte absolument tous les acteurs en fait du bassin carhaisien. Et au niveau des ambulances. Malheureusement, les ambulances privées, on en manque. Et au niveau des transferts de patients, c'est assez problématique. Donc les gens, s'il n'y a pas de famille ou s'il n'y a pas de moyens de locomotion, les gens font... Nous, la crainte, c'est que les gens ne se soignent plus parce que certains ne pourront tout simplement pas.
Merci beaucoup, Caroline Trommer, d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'avoir pris du temps pour alerter sur ce sujet aussi important.
Je vous remercie.
Avant de passer à un tout autre sujet, puisque l'on va parler du festival Lilophone avec la présidente de l'association, Pauline Bourda, on écoute le groupe La Poison qui fait évidemment partie de la programmation avec le titre « Besoin de réconfort ».
Psychotique, elle
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio U et de la quotidienne d'information, c'est vous qui le dites. Et je suis au téléphone, en ligne avec Pauline Bourda. Salut Pauline.
Bonjour, bonjour à tous.
Donc tu es présidente de l'association Lilophone qui organise évidemment le festival. Je crois que c'était aujourd'hui d'ailleurs dans le Télégramme, il y avait un petit article dessus. Je voulais commencer par discuter de ça avec toi. Le premier truc que j'ai souligné dans cet article, c'est, je ne sais plus comment c'est formulé, que vous criez en chœur, voilà, que vous n'êtes pas marié à une boîte de production. Et ça, c'est important de le souligner.
Nous, on est une association, on n'est pas des professionnels. On n'est même pas du milieu à la base. Hein. Bon, après, on commence à faire des contacts et des connexions avec certains producteurs hein, qu'on apprécie, mais on n'est pas marié avec aucun d'eux. Donc, ce qui fait que chaque année, quand on fait notre programmation, on part d'une page blanche et puis, chacun de l'équipe, on fait nos courses, entre guillemets, on montre aux autres qu'est-ce qu'on aimerait bien voir sur la scène de Lilophone, on se renseigne, et puis après on se met en accord, et tous les quatre, et puis après on décide d'une programmation. Mais ouais, non, il n'y a on n'est lié à aucune boîte de production qui doit nous imposer des groupes.
Donc le Festival Lilophone, pour les Brestois et Brestoises qui ne connaîtraient pas, festival qui se passe sur l'île d'Ouessant, c'est ce week-end, donc vendredi, samedi, et puis il y a un petit bout du off dimanche aussi, si je ne m'abuse, puisqu'il y a le off et la programmation du festival. Avant de rentrer un petit peu dans le détail de la prog, quand on organise un festival comme ça à Ouessant, il y a évidemment, j'ai envie de dire, tes petits problèmes de logistique. J'ai vu, par exemple, pour illustrer, que une des, ou si ce n'est la tête d'affiche, Jeanne Haddad, voulait amener, si j'ai bien lu, 110 mètres cubes de matos. Bon, finalement, vous lui avez dit, là, ça ne va pas être jouable, tu en auras légèrement moins.
Ouais, en fait, parce que du coup, quand on a pris contact avec la production de Jeanne Haddad, du coup, ils ont dit, ouais, we'll go et sans. Et puis, ils se sont mis en tête que c'était un peu comme Lilieux, parce que Lilieux organise aussi un festival, vient dans mon île, où elle est déjà allée jouer. Mais sauf que Lilieux, c'est pas du tout les mêmes infrastructures que chez nous. Eux, je crois qu'ils ont même pu faire passer le semi, il me semble, sur Lilieux. Donc, c'est pas le même bateau, c'est pas la même scène. Et du coup, je pense qu'au début, vu que quand on a calé la date, c'était aussi, tous les autres concerts, ils avaient plein de dates à venir, donc, beaucoup de logistique. Et qu'après, en disant le bateau ne prend pas de camion, ne prend que des conteneurs de je sais plus 4 mètres cubes, je crois, que chose comme ça. Donc faut pouvoir faire passer 100 mètres cubes, donc 4 mètres cubes, c'est juste pas possible. Donc après la taille de la scène aussi d'Hilophone, hein, ça joue toujours dans la salle de sport, donc on est quand même sur une scène, je pourrais dire de bêtises, mais d'une centaine de mètres de carré, je crois. Donc du coup Jeanne avec son équipe on fait ok, pas de soucis, on s'adapte, et puis ils vont s'adapter et faire un super show avec ce qu'on a sur Ouessant et ce qu'elle apporte aussi, hein, la manne comme de conteneur quand même.
Ouais. Et justement, comment on arrive à entre guillemets motiver des artistes comme ça pour leur dire finalement nous ça nous ferait très plaisir de vous faire jouer, mais on prévient des conditions, la salle est pas si grande, ça va être compliqué pour le matos, etc. Ça pose pas de problème, ils ont quand même envie de venir, ils sont toujours déter.
Après je pense que déjà le mot île d'Ouessant ça fait rêver. Et puis depuis là on est quand même à la 14e édition, et là depuis quand même quelques éditions, je pense qu'on parle de nous en interne. Je pense que les musiciens, quand ils se voient sur d'autres festivals, sur d'autres sites, ils doivent parler aussi un peu de ce qu'ils ont fait. Parce qu'on a des retours comme quoi on a une bonne réputation, Lilophone, qu'on mange bien, qu'on dort bien, qu'on est super bien accueillis. Donc je pense que ça nous aide d'un côté à d'avoir tous ces côtés où on essaie d'être le plus sympa possible pour les faire venir. Bon, après, il y a quand même des artistes qui ont le mal de mer et qui viendront jamais. Hein.
Oui, ça, quand on vient à Ouessant, c'est sûr qu'il n'y a pas trop le choix. Vous les faites pas venir en avion, quoi.
Après, il y a l'option avion, mais là, le groupe auquel je pensais, ils sont très nombreux, donc plus nombreux que l'avion. Après, l'avion est une possibilité, mais bon, je pense qu'un avion de 9 places, cette personne avait aussi un peu peur. Donc là, au bout d'un moment, là, on ne peut plus rien faire, quoi. Et on ne va pas créer un pont pour Lilophone, ça c'est clair et net. Oui. Il n'y aura jamais de pont.
Ça, c'est sûr. Lilophone, j'imagine la réputation, c'est aussi le public, on peut peut-être en parler. Le public, c'est... Il vous, tu, Tu sais d'où ils viennent? Est-ce que c'est majoritairement des Brestois, etc.? Parce que j'ai lu que là, le festival, vous avez vendu tous les billets, ça fait hyper longtemps que c'est quasi complet ou complet.
Bah, en fait, on met la billetterie en vente un peu avant Noël. On met 100 places à un tarif réduit avec la traversée maritime. Et ces places-là, en fait, on les vend en moins de 5 minutes. Alors du coup, comme c'est avant Noël, on ouvre quand même la billetterie normale parce que y a des personnes qui veulent aussi offrir des places, même s'il n'y a plus les 100 places Noël. Et on se rend compte que dès décembre, les gens, ils ont pris le rendez-vous et puis ils achètent directement dès que c'est mis en vente. Et là, quand on a annoncé la programmation début juin, il restait même pas 200 places en vente. Hein,
Donc
les festivaliers, c'est souvent toujours les mêmes. Hein. Il y a rarement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de nouveaux festivaliers, mais ils nous connaissent, ils nous font confiance et puis ils savent que faut s'organiser pour venir à l'Hylophone, donc faut son logement, faut réserver son bateau, son billet de festival et ça c'est cool parce que ils nous font une super confiance et puis j'espère qu'on les déçoit jamais, qu'on les décevra jamais. Ouais.
Oui, et puis pour Lille, parce que je pense qu'on peut le dire, toi tu travailles à l'office de tourisme de Ouessant. Pour
alors,
Lille...
je ne suis pas la directrice par contre, hein, par rapport
non.
à l'article de ce matin, je ne suis pas directrice.
Mais non, on remet les choses en place. Tu y travailles, mais du coup tu es quand même bien placé pour savoir ce que ça fait un peu sur Lille. C'est aussi évidemment un bel événement pour mettre Lille en avant, pour faire travailler un peu tous les commerces, etc.
Tout à fait. L'équipe créatrice de l'Hylophone, quand ils ont créé l'Hylophone là en 2008, ils étaient déjà dit d'une, on ne le fait pas en juillet-août, on ne le fait pas pendant la haute saison touristique. Mais par contre, deuxième week-end du mois de septembre, parce qu'en temps normal, ce week-end-là, on sera deux traversées par jour le vendredi, le samedi et le dimanche. Et ce sera un week-end normal de septembre. Que là, on est. Je vais avoir tout mémoire, mais on va avoir 8 ou 9 traversées à venir vendredi. Donc,
ouais.
C'est énorme.
Bah oui. C'est sûr. Pauline, si tu veux bien, on va parler un peu de la programmation. Je l'ai dit en introduction, il y a la programmation du festival et il y a un off aussi. Et si tu veux bien, on commence par le off. Et
ouais.
Alors là, le premier lien sur lequel on tombe, ça s'intitule « Bienvenue chez les Bretons, fit cuir moustache ». Vous êtes fait plaisir là-dessus, ça va être marrant.
Carrément. C'est surtout que ce groupe-là, il y a Charlie qui... à une de ses cousines qui habite Ouessant, donc ça fait longtemps qu'on en parlait tout ça, puis on remettait ça une année suivante et puis cette année ils fêtent leurs 10 ans de leur titre, la Bienvenue chez les Bretons, donc c'était l'occasion de les faire, puis ils vont jouer un peu le samedi au Rock Armor l'après-midi et puis faire la clôture le dimanche soir à la Duchesse Anne pour ceux les vénères qui restent le dimanche soir à Ouessant. Ils sont peu nombreux, mais c'est vrai que c'est la soirée un petit peu délire du festival. Tout le monde se lâche.
Ouais, généralement, si vous y allez, en tout cas, prévoyez pour l'année prochaine, essayez de prendre votre lundi, de poser votre lundi et de rester le dimanche soir.
Voire même le mardi, je pense, pour récupérer aussi. Mais je pense qu'il faudrait passer le lundi d'Hylophone au jour férié, je pense.
Ouais.
Ça mettrait dans les tuyaux, ouais.
Ouais, c'est ça. Il y aura aussi sur le off Tribé Brass Band, c'est pareil, là ça va bouger, on est plutôt sur de la fanfare, c'est quoi, funk, jazz, un peu de pop
C'est un peu de fanfare avec un peu d'instruments bretons. Du coup, c'est un peu le côté bretonnant aussi cette année qu'on a voulu mettre un peu, parce que c'est vrai qu'on ne les souhaite pas vraiment. Mais ça va être, je pense, un bon... une bonne fanfare bien cuivrée, ça va être bien sympa.
Et puis il y a du blues aussi sur le off avec Honeyman. Et là, pour le coup, c'est des Quimpérois, c'est ça
Tu m'as dit Honeyman.
Ouais, tout à fait.
De frères Quimpérois, très sympa. Là, j'échange avec eux pas mal par téléphone pour l'organisation technique. Et c'est un groupe que Olivier du Yaskif, le responsable du restaurant Yaskif, qui les connaissait, qui a dit « Ah, vous allez voir, ça va être sympa ». Et du coup, d'où il va jouer dans le restaurant, le Yaskif, ouais. Ça, ça va être un beau moment.
Et puis, il y a aussi un peu de DJ, dont les Brestoises et Brestois connaissent beaucoup la voix. Peut-être un petit peu moins les performances en DJ, quoique. C'est Gomina qui sera accompagné de DJ Momo du Festival de la Mer.
C'est ça. Nous, on a la chance de les connaître parce qu'on a déjà eu Gomina, on a déjà eu Momo comme DJ à nos soirées bénévoles. Donc, on leur fait confiance. Ils nous ont bien fait danser en soirée bénévole. Donc, je pense que ça va être très sympa, ouais.
Ouais, c'est le genre rock, punk et aussi quelques classiques presque inavouables. C'est ça?
Ben, il s'adapte au public, on va dire.
Voilà, tout pour danser. Et si on se concentre sur la programmation du festival, donc vendredi, ceux qui font l'ouverture, c'est des locaux, on va dire, des Finistériens, c'est Cancre, avec du... Comment on peut appeler ça? Du rock atypique avec chansons à texte en français? Quelque chose comme ça?
Oui, tout à fait, on peut dire ça. J'étais venu il y a quelques années sous le format Wicked. Je crois que c'était en 2016.
Ouais.
En 2017. Et puis après, on a suivi leur nouvelle formation Cancre. Et du coup, on avait très envie de les revoir. Et ouais, je pense que ça fait plaisir pour Cancre. C'est tout très sympa en plus, donc ça va être cool.
Eh bah tiens, on va écouter un de leurs titres qui s'appelle « La fuite ». C'est sorti sur l'album « Tout s'efface » en janvier dernier. Vous écoutez toujours Radio U, l'émission C'est vous qui le dites, et on est toujours avec Pauline Bourda au téléphone, présidente de l'association Lilophone qui organise le festival ce week-end à Ouessant. Vous venez d'écouter un des groupes qui est programmé ce week-end, c'était Cancre avec le titre La Fuite. Eux, ils feront l'ouverture vendredi, et puis ça enchaîne avec Mademoiselle K qui a été quand même hyper connu, plutôt fin des années 2000, début 2010.
Oui, quand elle a été primée aux Victoires de la Musique, où là, oui, elle s'est fait vraiment très bien connaître, on va dire. Et puis après, elle a toujours de l'actualité, elle tourne toujours, et puis je pense que c'est un sacré personnage avec un bon caractère à recevoir, donc...
Ouais, et un nouvel, un album qui est sorti, c'était quoi, l'année dernière? Ouais, c'est ça, octobre 2022. Il me semble. Et la soirée se conclut avec Selkilt. Là, c'est un peu du déjanté. Et c'est quand même un groupe qui a tourné énormément, y compris dans des énormes festivals. Je sais pas, je pense au Hellfest. Ils ont fait des tournées un peu aussi aux États-Unis, au Canada, etc. Non?
Je pense aussi, ouais, oui, parce que là, je vois, ils ont fait déjà plus de 650 représentations, donc je pense un groupe bien rodé, bien énergique sur scène. Hein, c'est ça qu'on a vu, les vidéos nous ont bien motivés, et puis en plus un côté celte. Puis bon, les Dropping Murphys, c'est un groupe qu'on aurait adoré avoir à Ouessant, mais je crois qu'on n'y arrivera jamais. Donc c'est un peu c'est pas pour les remplacer, mais bon, c'est un peu pour nous faire plaisir, mais...
Ouais, être un peu dans cette même veine, musique rock celtique qui bouge, avec une pointe d'autodérision, si j'ai bien compris, dans ce groupe-là, en plus.
Oui, en plus, ouais, c'est vraiment un spectacle sur scène, ouais. Donc, je pense que ça va être sympa.
Et puis, voilà, et donc ça, c'est prévu, le concert débutera à minuit 15, donc là-dessus, on finit la soirée, on est à fond. Et le lendemain, donc l'ouverture, c'est pareil, j'ai envie de dire, c'est des locaux, bon, Saint-Brieuc, en tout cas, c'est des Bretons, c'est le groupe De Verre qui a fait pas mal de bruit, j'irais aller aux alentours de 2015, un peu après, et qui tourne toujours et qui marche très très bien.
Ouais, c'est vrai que personnellement je connaissais pas. C'est Olivier qui nous en avait parlé, on s'est mis à écouter, puis vous étiez aussi demandeur de venir de jouer. Donc après c'est bien rock quand même. J'avoue, c'est peut-être c'est pas mon groupe à moi personnellement préféré de la programmation, mais les garçons, oui, ça leur plaît bien, mais moi c'est un peu trop.
Du coup, toi, c'est plus La Poison, par exemple, qui durera à 21h45, où il y a un côté rock, mais un côté un peu cold wave, new wave. C'est alors, plus ton style.
Alors, juste un petit erratum, je pense que La Poison va jouer en troisième. Je pense que ça n'a pas dû avoir les bons horaires. Il y a dû avoir un changement.
Okay.
Elle jouera à 23h10. La Poison, j'ai hâte de les voir, parce que je ne connaissais pas non plus. On a regardé aussi leur clip, et puis c'est un spectacle avec tout un maquillage, qu'on voit leur demande de ce qu'ils ont besoin. Je pense que oui, ça va être très sympa. J'ai dit ça pour tout le monde, mais ouais. À voir, ouais.
Et donc il y a Jeanne Haddad aussi, on en a parlé, la grosse tête d'affiche. Est-ce qu'il y a encore besoin de la présenter? Je ne suis pas sûre.
Je ne suis pas sûre, et franchement c'est chouette de la recevoir à Ouessant. Vraiment chouette.
Et il y a aussi Noon, là, qui est peut-être un petit peu moins connu, qui est, je ne sais pas trop comment le dire, il y a un peu de l'électro, un peu de musique trad bretonne, des fois il y a un peu de trap, en tout cas c'est la surprise assurée.
C'est ça, oui, c'est Phil Malgorn, un des programmateurs et vice-président de Vidéophone, là, qui les avait vus l'année dernière au Jeudi du Port. Je crois que sa fille aussi, puis elle a dit non mais ce serait trop bien Vidéophone et ça trouve sa place. Pour bien finir le samedi, ouais, je pense que ça peut être cool, ça va plaire aux jeunes et aux moins jeunes aussi quand même.
Eh bien effectivement, ça s'annonce très bien. Pauline, on le disait, le festival est complet, sauf qu'il y a encore des places à gagner avec Radio U. Et je vais te demander d'ailleurs, toi d'une main tout à fait innocente, de faire le tirage au sort. Alors pour ça, j'aurais besoin, parce qu'on a fait un jeu concours sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et j'aurais besoin que tu me donnes deux lettres qui vont décider de qui gagnera cette place.
Deux lettres?
Ouais, deux lettres.
Bon, PB, on va faire mes initiales.
PB. Alors, PB, eh bien, il y a quelqu'un qui a les mêmes initiales que toi. Ce sera Prissy Bulfon qui gagnera donc les places.
Ouais, bah, félicitations.
Voilà, félicitations.
Et pense vite réserver ton bateau, parce qu'il y a quelques places qui sont libérées. Donc, si ce n'est pas encore fait, ouais, faut vite appeler la compagnie maritime.
Ouais, eh ben, on transmet toutes les infos. Merci beaucoup, Pauline, d'avoir été avec nous au téléphone. Et bon festival.
Merci à vous. Oui, oui, merci. Just around the corner. Guess you never know what's coming up for you. You gotta take these dreams to town while you still can. Wake up now, soon you'll be the next one down.
C'était Selkilt et le titre Next One Down. Si vous avez écouté la précédente interview, c'était Pauline Bourda. Et vous savez que c'est le groupe qui conclut la soirée du vendredi soir au festival Lilophone ce week-end, dont Radio U est évidemment partenaire. C'est la fin de ce C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info de Radio U. Demain, on se retrouve à la même heure, au même endroit pour plus d'actualités locales. On parlera de l'association Parentèle qui est menacée de liquidation judiciaire par sa présidente. Et on parlera également des portes ouvertes de SCED, la maison de la langue et de la culture bretonne du pays de Brest. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de Radio U.